Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être encore au rendez-vous de Mélomanie. Bienvenue à tous ceux qui découvrent ce magazine consacré à l'actualité de la musique classique et lyrique à Toulouse et dans notre région. Comme le veut la formule de cette émission, nous allons revenir sur les événements musicaux de la semaine passée et nous projeter sur ceux de la semaine à venir. Des extraits des œuvres que nous évoquons vont illustrer nos échanges. Pour m'assister dans cette tâche, les mélomaniacs qui ont bien voulu participer à ce numéro. Tout d'abord Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, également présente dans ce studio, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et Les Voix du Midi, à ses côtés Robert Pénavert, l'autre cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur lui aussi pour le site Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et Les Voix du Midi. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir encore un invité d'honneur aujourd'hui, Gilles Colliard, directeur de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à tous les quatre. Sans plus attendre, retour sur l'actualité de la semaine écoulée pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Il y a eu un grand moment la semaine passée, très attendu comme à chaque fois qu'elle se produit à Toulouse. Martha Argerich était en concert à la Halle aux Grains samedi dernier avec l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine. C'était le premier rendez-vous de la saison des grands interprètes. La célèbre pianiste argentine y a joué le concerto en sol majeur de Maurice Ravel. Nous allons bien sûr commenter la prestation de Martha Argerich dans quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle d'abord de celle de l'Orchestre National de France, désormais dirigée donc par Emmanuel Krivine. Outre le concerto en sol de Ravel avec Martha Argerich, ils ont joué pour commencer les variations pour orchestre sur un thème de Paganini de Boris Blacher et après le concerto en sol, c'est Scheherazade, la suite symphonique opus 35 de Rimsky-Korsakov qui était au programme et nous étions plusieurs à avoir la chance d'être à la Halle aux Grains ce soir-là, dont vous, Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des interprétations de l'Orchestre National de France version Emmanuel Krivine ?
Personnellement, je pense qu'il est un peu tôt pour dire que Emmanuel Krivine a imprimé sa patte à cet orchestre qu'il connaît, c'est vrai, mais là, il le prend cette rentrée comme directeur musical, donc il compte bien lui insuffler beaucoup de choses, ne serait-ce que le travail sur le son, sur beaucoup de choses, sur l'interprétation. Là, on a eu un concert qui affichait des œuvres assez diverses et qui se terminait par un Scheherazade, c'est vrai, rutilant comme il se doit être, avec des couleurs, des cuivres qui sonnent, etc. Je pense que c'est une interprétation de haut niveau. Peut-être qu'on aurait souhaité un peu plus parfois de subtilité, de nuance, mais c'est un orchestre très très solide et que je crois Emmanuel Krivine va porter vers peut-être de nouveaux répertoires et apporter sa patte.
Parce que vous l'avez interviewé, vous avez eu la chance de l'interviewer.
Oui, pour lui, bon, ben voilà, il prend cet orchestre, il compte jouer un répertoire très vaste puisque l'orchestre joue tous les répertoires, y compris de l'opéra, avec des chefs très très divers. Puisque c'est l'Orchestre National de France qui a joué le concert du 14 juillet à Paris au Champ de Mars avec Valérie Gergiev, donc il joue avec des chefs les plus divers. Donc c'est vrai que lui, il va peut-être apporter une touche de musique française, mais il ne veut pas donner que de la musique française. Il aborde ça avec sérénité, je crois.
Serge Chauzy, vous étiez aussi présent.
Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a le plus frappé de la part de l'orchestre au cours de cette soirée, c'est la première œuvre de Boris Blacher, qui est une œuvre que j'avoue...
Je ne connaissais pas non plus, moi.
Entendre en concert pour la première fois, qui est des variations sur le 24e prélude, le fameux, pour violon seul, de Niccolo Paganini. Celui-là même que Rachmaninov, Brahms ont utilisé.
Beaucoup varié dessus, si je puis dire.
Ah, énormément. Et là, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la précision de l'orchestre, sa virtuosité, parce que c'est une œuvre qui comprend 16 variations miniatures sur ce thème. Et vraiment, ça, c'était éblouissant. Ça m'a encore plus ébloui que le Scheherazade, effectivement.
Qu'on a peut-être trop souvent entendu à Toulouse jouer par l'Orchestre National du Capitole.
C'est ça. Donc, c'est un bel orchestre qui a du potentiel. C'est évident.
Robert Pénavert.
Oui, alors moi, je n'étais pas à ce concert, malheureusement, mais autant que je me souvienne, l'Orchestre National de France est très souvent au Corrigis d'Orange. Hein. Oui. Depuis des années, il joue aussi bien Wagner que Puccini, que Strauss, que l'Opéra français. Enfin, voilà, c'est un grand orchestre, hein, indiscutablement.
Krivine qui a souvent invité le chœur Les Éléments, d'ailleurs.
Oui, absolument. Mais il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Krivine est le premier chef français depuis 40 ans à diriger cet orchestre.
Et oui.
Donc, depuis
le précédent, Jean Martineau.
Jean Martineau, qui a été
années 70.
Voilà, le dernier chef français à diriger cet orchestre.
Le précédent, c'était Gatti.
Daniele Gatti,
qui est parti à Amsterdam, à la tête du Royal Concertgebouw d'Amsterdam. Donc, il a eu aussi des Kurt Masur, il a eu des chefs très, très différents, des très grands chefs.
Ouais. On va en venir maintenant, évidemment, à Martha Argerich, dont c'était la énième interprétation du concerto en sol de Maurice Ravel, avec l'Orchestre National de France cette fois-ci, joué donc entre les œuvres de Blacher et de Rimsky-Korsakov lors de ce concert. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion d'entendre Martha Argerich jouer cette œuvre précise en concert. Sans doute l'avez-vous entendu ou sur des CD ou à la radio. Comment vous avez trouvé son interprétation samedi dernier, sachant que là, elle l'a joué avec un orchestre aussi bien particulier, un chef bien particulier. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ?
J'ai trouvé ça éblouissant, hein. C'était évident, dès le début. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je m'attendais à ce qu'elle entre bille en tête, comme on pourrait dire, dans le concerto. Non, elle s'est intégrée petit à petit. Mais c'était éblouissant, hein. Comme j'ai écrit, on avait l'impression au début que la lionne rentrait ses griffes.
Oui.
Donc, petit à petit, elle s'est intégrée à l'orchestre et c'était magnifique. Et puis, alors, surtout, le deuxième mouvement, qui est de l'Adagio assai.
Un mouvement lent, voilà.
Une merveille.
Un morceau de bravoure pour le pianiste, en tout cas, de ce morceau.
Oui, c'est surtout une merveille de poésie. Hein. C'était extrêmement subtil, avec des nuances, des couleurs, comme elle sait le faire. Hein, donc. Et puis le final, évidemment, éblouissant.
Moi, j'ai trouvé aussi que c'était vraiment dans le deuxième mouvement qu'elle avait le plus habité cette musique, parce que je pense qu'elle l'a jouée des centaines de fois en répétition, en concert. On pourrait penser qu'à un moment, il y a peut-être un peu de lassitude, même si elle aime à dire que Ravel a écrit cette œuvre pour elle. Je rappelle que la dédicataire, c'était Marguerite Long, et que c'est elle qui l'a créée en 1932, sous la direction de Ravel, d'ailleurs. Mais bon, oui, je pense que c'est là qu'elle a donné sa pleine mesure, qu'elle a encore sans doute inventé quelque chose par rapport à ses interprétations précédentes. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Anne-Marie Chouchan ?
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien à prouver, qu'elle respire avec cette musique et que finalement, pour elle, c'est devenu quelque chose d'évident. La technique, c'est même pas la peine d'en parler. Elle est dominée depuis longtemps, elle est superlative. Et ce concerto, même si elle le joue depuis très très longtemps, elle est bien avec, elle respire avec. Donc, c'était assez fabuleux, c'est vrai.
Oui, on a l'impression qu'elle prend du plaisir. Elle ne vient pas pour donner une démonstration.
Vous dire que c'est pas du rabâchage quand même, qu'elle l'ait joué.
D'ailleurs, cette interprétation, enfin l'interprétation de ce concerto, figure sur le dernier coffret du Progetto Martha Argerich à Lugano, qu'elle a organisé jusqu'en 2016, puisque c'était la dernière édition de ce festival où elle fait venir de jeunes musiciens, en particulier de jeunes pianistes. Et donc, elle l'avait donné déjà en 2016 avec l'orchestre de la Suisse italienne.
Comme on a un musicien parmi nous, Gilles Collier, je crois que vous n'étiez pas présent à ce concert. Mais quelques mots sur Martha Argerich et sur les interprétations que vous devez connaître, je pense, qu'elle a pu donner jusqu'alors du concerto en sol de Ravel.
Oui, alors j'ai eu effectivement l'occasion de rencontrer Martha à quelques reprises, de l'entendre aussi, de faire de la musique avec ses enfants aussi. C'est une personne admirable, c'est effectivement, à mon sens, sans doute... C'est toujours très difficile de dire ça, voire impossible, mais pour moi, c'est la plus grande pianiste actuelle, et on peut dire la plus grande pianiste du XXe siècle. C'est à la fois un feu, une incandescence permanente, une gestion justement de... Et effectivement, comme disait Anne-Marie, il n'y a pas de problème de technique, on a dépassé tous ces paramètres depuis longtemps. Mais c'est une personne particulière, à côtoyer, à faire de la musique avec. C'est pas forcément toujours simple, mais c'est une personne, lorsqu'elle s'investit, c'est totalement magique. Alors je me suis amusé, parce que j'ai dirigé il n'y a pas très longtemps le premier concerto de Liszt, et je me suis amusé à écouter une version de Martha Argerich dirigée dans les années 70, où elle est jeune, magnifique, et elle joue cette introduction du premier concerto avec un brio comme on le trouve rarement en live comme ça. Et puis je tombe sur une de ses dernières prestations avec ce même concerto de Liszt, donc on voit une dame comme grisonnante arriver comme ça, avec ses grands cheveux longs. C'était dirigé par Baron Boehm, je crois, et je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70 et pratiquement les années 2020, 50 ans plus tard. Elle s'assied au piano et c'est la même Martha, c'est la même fougue, c'est le même investissement, c'est totalement subjugant. Moi, je suis un grand admirateur de Martha Argerich.
En grande artiste, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Alors, parler de Martha Argerich, c'est bien, l'écouter, c'est mieux. Et il se trouve que le concert que nous avons entendu l'autre jour, samedi dernier, à la Halle au Grain, avait été donné précédemment le jeudi à l'auditorium de la Maison de la Radio. Et donc, eh bien, nous avons un enregistrement. Vous allez écouter ce que nous, on a entendu à peu de choses près, je pense, samedi. Vous avez évoqué le deuxième mouvement sur ce fameux mouvement lent, l'Adagio assai. Eh bien, c'est ce que nous allons écouter maintenant sous les doigts de Martha Argerich avec Emmanuel Krivine et l'Orchestre National de France. L'Adagio assai, ce fameux deuxième mouvement du concerto en sol majeur de Maurice Ravel, interprété par Martha Argerich et l'Orchestre National de France, dirigé par Emmanuel Krivine. C'était il y a une semaine à l'auditorium de la Maison de la Radio, puis à la Lograin, nous l'avons entendu en direct lors du premier concert de la saison des grands interprètes. Quand vous le réécoutez là maintenant, alors on voit que c'est du live, hein, parce qu'on entend beaucoup de tout. Ça tousse encore plus, j'ai l'impression, à la Maison de la Radio qu'à la Lograin. Mais quand même, on sent toutes les nuances, toute la richesse de cette partition qu'elle fait ressortir là. C'est merveilleux.
Je me rappelle d'une phrase que m'a dite Emmanuel Krivine lors de cette interview. Il me dit, Martha, c'est une merveille, comme disait Gilles tout à l'heure. Elle n'a pas besoin de penser, elle a une pensée à chaque doigt. La pensée était dans chaque doigt et qu'elle n'avait pas besoin en plus de... C'était ouais. Une façon
mais
de...
Moi, je veux dire, j'étais posté au troisième rang, un petit peu à gauche. Donc, voyez, j'étais à quelques mètres de Martha Argerich. Je voyais vraiment ses mains sur le piano. Et rien que ça, visuellement, on a l'impression vraiment qu'elle ne touche pas le clavier. Quoi. C'est... Ouais. Éblouissant, et vous parlez, alors là on a entendu le début de ce deuxième mouvement, moi à la fin
c'est le tri
aussi,
final,
le tri final. J'ai vraiment eu l'impression d'entendre le piano pleurer, pleurer d'émotion. Bon, allez, j'arrête, je vais pas me laisser embarquer parce qu'on pourra en parler pendant des heures. La semaine dernière il y avait aussi des concerts de l'Orchestre National du Capitole avec un programme où l'on trouvait deux œuvres de Mendelssohn et le 18e concerto pour piano de Mozart, l'ensemble symphonique toulousain dirigé par le jeune chef russe Maxime Emelianichev et accompagné du pianiste américain Richard Good a joué successivement à la Lograin de Toulouse, à Saint-Céré dans le Lot et à Castres dans le Tarn. Anne-Marie Chouchan, Robert Pénavert et Serge Chosy, vous avez assisté au concert donné à la Lograin. Serge Chosy, vous avez même interviewé, je crois, Maxime Emelianichev. Alors, quelles impressions vous ont laissé à vous trois ce programme, l'orchestre dirigé par Emelianichev et Richard Good?
Oui, effectivement, j'ai eu le plaisir de l'interviewer. C'est un peu un ovni, hein, ce chef. Il a 28-29 ans. Et donc, c'est un chef qui est ouvert sur tout. Il est le directeur musical de l'ensemble baroque Il Pomodoro. Il tient le clavecin de cet ensemble, il est pianiste, il joue du cornet à bouquin et il dirige des orchestres symphoniques. Et quand il dirige un orchestre symphonique, il a son héritage baroque. C'est-à-dire qu'il sait obtenir, par exemple, peu de vibrato de la part des cordes, des violons. Et d'ailleurs, il faut saluer l'orchestre du Capitole qui se plie très facilement à cette nouvelle manière de diriger. Et bon, c'est quelqu'un d'une fantaisie, d'une imagination incroyable. Donc je crois qu'il est au début d'une grande carrière. Et là, en particulier, quand il a dirigé la première œuvre de Mendelssohn, la grotte de Fingal, enfin, les Hébrides. Déjà, il y avait une saveur extraordinaire. Et dans la symphonie écossaise, à la fin, il prend des tempos quelquefois complètement ahurissants. On se demande comment les musiciens vont suivre. Et les musiciens suivent. Parce que, pour avoir discuté ensuite avec des musiciens, ils sont ravis. Vraiment, ils s'entendent très bien avec ce chef, qui a même obtenu de la part de l'orchestre et du management de l'orchestre de modifier la disposition des musiciens sur le plateau. C'est-à-dire, il aime bien avoir les premiers violons à gauche, les deuxièmes violons à droite, au centre les altos et les violoncelles, les contrebasses au fond, au milieu. Donc il a obtenu ça avec gentillesse de la part de l'orchestre, alors que bon, les musiciens pourraient préférer garder leur place habituelle. Ben non, ils ont fait ça avec beaucoup de bonne volonté et ça s'est senti. Et puis il y a le concerto de Mozart.
Le 18e.
Ah là, c'était complètement fantastique. D'ailleurs, Richard Good était émerveillé lui-même, qui est quand même, on peut dire, un vieux maître.
Un vieux routier du piano, on peut dire.
Et il était tout à fait émerveillé des échanges qu'il y a eu entre l'orchestre et le piano. Le piano suggérait un motif, l'orchestre le reprend avec les mêmes nuances et réciproquement. Il y avait vraiment un échange que j'ai trouvé magnifique, poétique et très beau.
Vous, superbe concert, rien d'autre à dire.
Tout à fait.
Anne-Marie Chouchon.
La même chose, il a obtenu de l'orchestre en fait d'autres couleurs, il a aéré le discours sans arrêt avec cette disposition des musiciens différentes, donc il a dirigé le répertoire, c'est le répertoire classique, Mozart et Mendelssohn, en essayant de retourner une interprétation plus historique, si on peut dire, avec un orchestre aéré, avec des placements différents, et en même temps une dynamique qui ne faiblit jamais, et puis une précision, puisque l'orchestre le suit, et que l'orchestre est toujours au top. Je crois qu'actuellement, il n'y a rien à dire sur le plan technique.
Oui, ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Alors vous, Robert Pénavert, vous étiez également présent. Est-ce que vous avez exactement le même enthousiasme, ou est-ce que vous nuancez un petit peu ?
Eh bien, pardonnez-moi, mes amis, mais je ne partage pas complètement votre enthousiasme, et je le regrette beaucoup. Mais en fait, je crois que j'attendais trop de ce concert. J'étais encore sur l'interprétation complètement stratosphérique de la 7e de Beethoven il y a quelques temps.
En juin dernier.
Par Maxime et Melianichev et l'Orchestre du Capitole, qui vraiment m'avait fait complètement décoller. Je ne savais plus où j'étais et je m'attendais à avoir effectivement le même choc. Il ne s'est pas produit. Je reconnais une mise au point absolument étourdissante, un orchestre évidemment extraordinaire, Richard Good et son toucher de cristal, n'en parlons pas, c'est merveilleux. Mais en même temps, je n'ai pas vibré à ce concert parce que ce concert-là, je l'ai déjà entendu quelque part, il ne m'a pas apporté vraiment une nouveauté. Voilà. Et en particulier, j'ai trouvé quelque chose, il serait intéressant de discuter avec les musiciens là-dessus. Enfin, Serge dit qu'ils sont tous fous de joie et j'applaudis évidemment à cette osmose, à cette ambiance, à cette atmosphère, bien sûr. Mais j'avoue que par exemple, le deuxième mouvement de l'écossaise, il a pris mais vraiment un tombeau ouvert, Serge le disait d'ailleurs, mais à tel point qu'à certains moments, les thèmes ne me paraissaient pas très nets et je me demande si vraiment tout le monde était dans l'orchestre enthousiaste de cette chose-là. À regarder un peu cette symphonie, ce deuxième mouvement, c'est une fête ce deuxième mouvement, il n'y a pas de souci. Donc c'est, si je me trompe, c'est un vivace, ça c'est normal, non troppo.
Oui.
Voilà, donc, et là, c'était vraiment pas non troppo. Alors pour ceux qui ne parlent pas italien, c'est mais pas trop vite.
Oui, pas trop.
Voilà, pas trop vite. Je n'ai jamais entendu un deuxième mouvement comme ça. Alors est-ce que, bon, on va pas ergoter là-dessus plus longtemps, mais... de là à tomber à genoux devant ce concert, non, je suis désolé, mais ça, je ne sais pas le faire. Alors, par contre, quelque chose que vous n'avez pas dit, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a fait saluer les musiciens tous un par un. Je me demande si je l'avais déjà vu, ça.
Ça a dû être long.
Tous ensemble, comme, mais vraiment saluer, comme lui, c'est-à-dire se plier et saluer le public, c'est-à-dire prenant chaque musicien comme un soliste à part qui a bien fait son travail. Et ça, je crois que le public a beaucoup aimé.
Et les musiciens sont tout aussi.
C'est vrai, oui, absolument. Oui.
Alors voilà, bon, on ne va pas vous réconcilier apparemment, il y a quelques nuances dans les appréciations, mais tant mieux. On va en rester là-dessus. Le même soir que le concert de l'Orchestre National du Capitole à la Hallograin, il y avait le concert d'ouverture de Toulouse des Orgues à Saint-Cernin avec Michel Bouvard, le titulaire de l'orgue, qui jouait pour la première fois sur le cavaillé-col de la basilique après son relevage. Et je peux vous dire que ça crachait le feu, c'est le cas de le dire. Il a interprété, et toujours magnifiquement, des œuvres de Louis Vierne, Charles-Marie Vidor et Olivier Messiaen. Puis nous avons entendu le Requiem de Duruflé en seconde partie. Le festival se poursuit et se termine ce week-end. Nous y reviendrons la semaine prochaine, bien sûr. Est-ce que certains d'entre vous ont assisté à des concerts? Je crois que c'est votre cas, Serge Chosy.
Oui. J'ai assisté à un petit concert de midi qui avait lieu dans cette église dans laquelle je n'étais jamais allé, l'église Saint-François de Paul des Minimes, qui a un petit orgue qui a été construit récemment, en 1991. Donc, c'était très étonnant, avec un duo de tout jeunes musiciens, un organiste qui s'appelle Jean-Luc O, et une musicienne qui s'appelle Sarah Dubus, et qui joue du cornet à bouquin, également de la flûte à bec, et qui était revenue un an après avoir remporté le premier prix du deuxième concours international des cuivres anciens, qui a été organisé à Toulouse par les Sacqueboutiers. Et donc, c'était un peu le retour de la récompensée de ce concours. Et ça a été un concert très amusant, très vif, très imaginatif, pour ces duos d'œuvres très diverses, de Palestrina, Fontana, Merula, enfin des grands compositeurs de la Renaissance.
Et puis, donc, vous avez assisté à un concert mercredi, et là, c'était sur l'orgue de la Dalbad.
Voilà.
Magnifique, paraît-il. Je n'y étais pas, mais on a vraiment rapporté des choses magnifiques.
Formidable. Alors, il y a deux choses. D'une part, la qualité de cet orgue, orgue Puget, c'est pas un cavaillé-colle pour une fois, qui possède des couleurs extraordinaires, à condition qu'il soit bien mené, évidemment, et c'était le cas avec Jean-Baptiste Dupont, qui est un jeune organiste, qui est riche d'un très large répertoire, qui joue aussi bien de la musique de la Renaissance que de la musique contemporaine. Et donc, il s'est intéressé depuis quelques années à un compositeur peu joué, qui est l'allemand Max Reger. Et il est d'ailleurs en train d'enregistrer l'intégrale de l'œuvre pour orgue de Max Reger, qui est une œuvre considérable, près de 30 opus d'œuvres pour orgue. Et là, il jouait une œuvre difficile, exigeante de Reger, qui s'appelle, excusez mon accent allemand, Introduction, Variationen und Fuge über ein Original Thema.
On a tous compris, pas de
problème.
On a
tous compris, oui. N'est-ce pas? Donc, c'était vraiment éblouissant qu'on travaille à l'orgue. Et puis ensuite, ou plutôt auparavant, il avait joué des transcriptions de trois pièces du Petrushka de Stravinsky.
Ça, ça devait être quelque chose.
Non, c'était pas mal à l'orgue, vraiment intéressant. Et puis, une transcription qu'il a lui-même réalisée d'un mouvement du trio de Ravel, trio pour piano, violon et violoncelle.
Ah, mais le fameux trio avec piano, oui.
Et donc, il a joué cette transcription qu'il a effectuée lui-même, très poétique, très belle, donc avec des couleurs, mais tout à fait extraordinaires, vraiment. Alors, c'était un magnifique récital.
Beaucoup de succès. Il y en a d'autres d'ici la fin de ce week-end, puisque le festival est clôturé dimanche avec la nuit de l'orgue. J'en dirai encore quelques mots en fin d'émission. On va terminer la première partie sur le Festival Toulouse des Orgues. Nous allons la poursuivre dans une minute en compagnie de Gilles Colliard, avec qui nous allons largement évoquer les prochains concerts et la saison de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et La Voix du Midi, Robert Pénavert, également cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31, Côté Toulouse et La Voix du Midi, et donc notre invité du jour, Gilles Colliard, directeur de l'Orchestre de Chambre de Toulouse.
Mélomanie, l'agenda.
Dans l'agenda de la semaine prochaine, il y a justement les prochains concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ce sera le lundi 16 et mardi 17 octobre, puis à la Scale de Tournefeuille, mercredi 18 et jeudi 19. Tous commencent à 20h30 et présentent comme de coutume le même programme avec trois œuvres de Gabriel Fauré, Karl Kampf et Richard Wagner. Ce programme a d'ailleurs été intitulé « Wagner et Fauré ». Pour l'interpréter, l'Orchestre de Chambre est accompagné à l'harmonium par Emmanuel Pellapra. Nous allons parler du reste de la saison de l'Orchestre de Chambre de Toulouse dans quelques minutes, mais nous allons déjà nous intéresser à ces concerts de la semaine à venir. Gilles Colliard, pourquoi avoir réuni Wagner et Fauré dans ce programme ? Il doit y avoir une raison bien précise.
Eh bien, pas forcément, en fait. Je vais vous décevoir. Non, vous voyez que les programmations de l'orchestre, puisqu'on va en parler durant cette émission, sont la plupart du temps thématiques. On cherche effectivement à sortir parfois des sentiers battus. On cherche à inviter aussi des jeunes solistes. On cherche aussi à mettre en avant les musiciens toulousains et à inviter, bien sûr, les stars de la musique. Voilà, à varier un peu nos plaisirs. Alors, les programmes sont la plupart du temps thématiques. Parfois, c'est une thématique qui est bêtement lié à l'instrument. Et c'était une sorte de carte blanche à Emmanuel Pellapra. Moi, j'adore l'harmonium parce qu'en plus, j'ai la chance, j'ai hérité de l'harmonium de ma grand-mère que j'ai absolument... Moi, j'ai déménagé une vingtaine de fois depuis 30 ans. Et à chaque déménagement, je veux bien laisser nimp tous mes meubles dans mes anciennes maisons, mais l'harmonium, je le prends. Donc, je l'ai trimballé un peu dans toutes les... partout en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Et j'ai une affection particulière pour cet instrument. J'ai été très séduit par la proposition d'Emmanuel de joindre effectivement la sonorité de l'harmonium avec l'orchestre. Aussi, je lui ai vraiment proposé de me faire un programme qui puisse avoir une belle tenue. Là, on est vraiment dans des œuvres, effectivement, excepté Wagner, on est toujours au début du XXe siècle, avec parfois des transcriptions et des œuvres originales. On a oublié de citer ici une œuvre qu'on a ajoutée par la suite, qui est un adagio de Saint-Saëns absolument sublime pour harmonium et orchestre à cordes. Donc là, oui, on peut toujours effectivement rentrer dans des notions plus historiques et plus détaillées entre le rapport entre les compositeurs. Mais là, au départ, c'était Emmanuel, que peux-tu me proposer ? Et j'étais vraiment séduit. Je me suis plongé dans les partitions. Peut-être qu'une des pièces les plus étonnantes est celle de ce Karl Kampf. L'histoire de la musique regorge de ces compositeurs, parfois effectivement allemands, suisses. Je pense à Klaus Huber, dont j'ai enregistré il n'y a pas longtemps les sonates pour violon, ce qui est une sorte de Strauss suisse. Donc on est souvent surpris et étonné par le fait que beaucoup de ces compositeurs vont rester tout à fait tombés dans l'anonymat. Peut-être une des pièces les plus étonnantes de la soirée est le Kampf.
Alors Kampf, il est mort en 75,
il est mort en 1950. Il est né en 1874, il est mort en 1950.
Donc il est plus un peu plus récent que les autres qui sont programmés ce jour-là.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Voilà. Il y a une force assez particulière qui se dégage de cette musique. Ce que j'ai au départ imaginé comme des maladresses, finalement avec l'adjonction de l'orgue, font que ce langage est très très structuré, très très bien écrit.
Alors si on prend le programme dans le détail, quelles sont les œuvres qui vont être jouées ?
Donc nous débuterons par cet adagio de Saint-Saëns, moi je suis un passionné de la musique de Saint-Saëns, s'il y a un maître français pour moi c'est...
Je l'ai remarqué, il revient souvent dans les programmes
de l'Orchestre
de Chambre de Toulouse.
Voilà, exactement. Ensuite il y aura la symphonie en fa majeur de Fauré avec ce troisième mouvement qui est une sorte de clin d'œil à la musique baroque puisqu'il s'agit d'une gavotte. Et puis le Kempf avec ce langage presque un peu cinématographique, c'est un peu étonnant, c'est une manière de traiter l'orchestre presque symphonique alors qu'il n'est qu'en présence de cordes. Et puis un vrai dialogue qui s'instaure avec un orgue, un harmonium un peu dans le stile di recitativo qui est un peu un langage assez libre. Et puis ce Siegfried Idyll, alors là j'étais très 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 perplexe parce que je suis pas vraiment un fanatique de Wagner, et pourtant j'étais à New York il y a 3 mois et j'ai eu la chance, parce que Alan Gilbert, qui dirige l'orchestre philharmonique de New York, m'avait dirigé quand j'avais 25 ans, il en avait 25 ans aussi, on a le même âge, et j'avais joué le concerto de Bernstein sous sa direction, et on s'est retrouvés 25 ans après, il y a quelques mois, et puis il m'a invité, il dirigeait Lohengrin à New York, et... Alors j'y étais parce que ça m'était un grand bonheur de retrouver ce chef qui était un ami, même si on ne s'était pas revu depuis longtemps. Et j'avoue que je suis assez fasciné par la personnalité, je pense, de Wagner. J'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de temps à autre d'un accord de Do majeur. Voilà, Siegfried Idylle est une des rares pièces de Wagner que j'aime particulièrement et qui me convainc de la première note à la dernière, parce qu'il y a une sorte d'amour et de sentiment et de poésie dans cette musique qui est, je trouve, propre à Siegfried Idylle. Alors l'absence totale de vent quand j'ai commencé à travailler cette partition magnifique qu'avec les cordes avant de la venue du soliste, j'essayais d'imaginer ce que l'orgue pouvait... ce que l'harmonium pouvait apporter dans cet arrangement, puisqu'il y a tellement de voix de vent et tellement de tel art de l'orchestration de Wagner. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourra arriver à obtenir quelque chose simplement avec l'harmonium? Et puis, c'est un objet un peu particulier, mais ça fonctionne fort bien, donc j'ai hâte de me retrouver lundi derrière mon pupitre.
Comme vous en avez parlé, j'ai un extrait de la symphonie en fa majeur opus 20 de Gabriel Fauré. Et j'ai un extrait où on entend Emmanuel Pellapra, mais pas l'harmonium, alors que c'est un extrait qui a été enregistré il y a quelques années sur l'orgue de l'église de Condon, la cathédrale de Condon, je ne sais plus si c'est une église ou une cathédrale, peu importe. On va écouter tout de suite cet extrait, la symphonie en fa majeur opus 1 de Fauré. Un extrait de la très belle symphonie en fa majeur opus 20 de Gabriel Fauré, interprété par Emmanuel Pellapra à l'orgue et avec l'orchestre en harmonie sous la direction de Serge Krichevski, un des chroniqueurs de cette émission. Ce sera une des 3 œuvres au programme des concerts que donne l'orchestre de chambre de Toulouse et Emmanuel Pellapra à l'harmonium cette fois-ci les lundis 16 et mardi 17 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines, ainsi que les mercredis 18 et jeudi 19 à l'escale de Tournefeuille, à chaque fois à 20h30. Et vous pourrez aussi y entendre la balade opus 12 de Karl Kempf et la Siegfried Idylle de Richard Wagner. En passant, je précise pour ceux qui nous écoutent dans le Gers, justement, qu'Emmanuel Pellapra et l'orchestre de chambre de Toulouse sont également en concert ce dimanche 15 octobre à la cathédrale de Condon, parce qu'il s'agit bien d'une cathédrale. C'est à 16h avec un programme un petit peu différent, Gilles Colliard.
Oui, il y aura quelques œuvres pour orgue seul, jouées par Emmanuel. Et nous n'interpréterons pas le Fauré puisqu'elle a été jouée l'an dernier. Et à la place, il y aura une œuvre pour orchestre, il y aura la suite Holberg de Grieg.
Voilà, comme ça, vous savez tout. Si vous nous écoutez dans le Gers, surtout, allez écouter ce concert dimanche. Maintenant, on va revenir au reste de la saison de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Il y a des concerts chaque mois. Ça, ceux qui vous suivent le savent très bien. Il y en a 2 à chaque fois à Saint-Pierre-des-Cuisines, 2 à l'escale de Tournefeuille. En novembre, ce sera Marin Marais, la viole de gambe, avec Anne Gorier, la viole de gambe. Décembre, c'est Mozart qui aura les honneurs. Gilles Colliard sera au violon et à la direction. Janvier, alors là, quelque chose d'assez spécial, Scott Joplin. le jazzman. Direction, et là c'est encore assez spécial, Frédéric Lodéon. Février, Gabriel Fauré et Chausson au piano Thierry Huillet. En mars, ce sera l'art de la danse avec le VM Ballet. Avril, Mozart et Bach, encore Mozart, mais avec Bach cette fois-ci, au piano Jean-Paul Gasparian. En mai, Mendelssohn avec Clara Tchernat au violon. Et en juin, Saint-Saëns, votre ami Saint-Saëns, Jules Colliard, avec Ophélie Gaillard au violoncelle. Alors, dans toute cette riche et variée programmation, est-ce qu'il y a des concerts, des solistes, des temps forts que vous voudriez mettre en avant plus que d'autres?
J'espère qu'il n'y aura que des temps forts.
Tout est à mettre en avant, bien sûr.
Exactement.
Je me doutais de la réponse.
Voilà, bon, le concert avec Anne Gorizier à la viole de gambe, c'est vrai que l'orchestre de chambre de Toulouse joue sur le double instrumentarium, mais il y a une vraie... je suis spécialisé dans la musique baroque depuis, mon Dieu, de nombreuses années, puisque je suis tombé dedans quand j'avais 18 ans, et que j'avais eu l'occasion de rencontrer Gustav Leonhardt, et que j'avais été fasciné, que très vite, voilà, j'ai voulu en tout cas utiliser tout mon bagage et mes connaissances et mes recherches, puisque je dirige aussi le département de musique ancienne à Toulouse. Quand j'ai repris l'orchestre de chambre de Toulouse, j'ai vraiment souhaité toucher ce répertoire, d'abord sur les instruments modernes, puisque je pense qu'on peut servir cette musique baroque très bien sur n'importe quel instrument. Après, des questions de diapason, etc. Pour moi, c'est un faux débat. Mais ensuite, pour l'articulation de cette musique, c'est vrai que l'archet baroque apporte un confort de jeu, une articulation qui sied vraiment à cette musique, à l'interprétation de cette musique. Donc on est passé tout à coup sur le double instrumentarium. Donc effectivement, le concert, là, Marais sera sur instrument d'époque. Mozart, je souhaitais jouer le premier et deuxième concert de violon, parce que on joue toujours les 3, 4, 5, alors qu'ils sont tous composés à la même période, qu'ils ont tous plus ou moins la même difficulté, même pas plus que moi. C'est la même plume. Des œuvres relativement, enfin j'allais dire des œuvres de jeunesse, il les a composés à 17 ans, donc c'était plus des œuvres de jeunesse pour Mozart. Et ensuite, effectivement, Chausson, Fauré, de la musique de chambre, j'aime bien de temps à autre sortir un peu les musiciens, même si dans un orchestre de chambre on est tous concernés, on entend tout le monde, et que ce travail d'osmose que je fais pour obtenir une sorte d'une sonorité bien particulière, les gens ont très souvent, même dans la musique baroque, des concertos grosso, chacun est très responsable. Donc là, j'extrais quelques musiciens de l'orchestre pour présenter des œuvres de musique de chambre que j'aime particulièrement, Chausson par exemple, le programme ensuite effectivement de d'avril avec Jean-Paul Gasparian, voilà des jeunes que j'aime mettre en avant, Mendelssohn, voilà, avec une actrice locale de la musique, et puis Saint-Saëns, Sophie Gaillard. Alors j'ai fait exprès de zapper le concert de l'Odéon, parce que ça il demande peut-être un tout petit peu plus d'explications. C'est vrai que Frédéric est un ami de longue date, d'abord c'était un violoncelliste, on l'oublie.
Oui, on l'oublie, il faut le redire.
C'était
ça,
le
oui.
plus grand violoncelliste français, il était
vainqueur du concours de
Rostropovitch, absolument. C'était absolument phénoménal. Et puis ensuite, voilà, les aléas de la vie. On a mangé avec Frédéric il y a quelques jours à Paris. Il me parlait justement un peu de son parcours. Et les aléas de la vie ont fait qu'il s'est tourné de plus en plus, effectivement, vers la direction. Et puis ensuite, vers son métier de journaliste. Et puis, il a cette manière tellement magnifique de démocratiser la musique.
C'est un passeur formidable.
Voilà, c'est un passeur merveilleux.
Un passeur qui connaît la musique.
Voilà, et un homme extrêmement généreux, extrêmement simple, extrêmement courtois. Alors moi, j'avais vraiment envie de lui offrir cette carte blanche, avec un programme d'œuvres, effectivement, plus tourné vers l'Amérique, avec du Barber, avec du foot, et ce petit clin d'œil avec le ragtime.
Scott Joplin et Absolument. Le ragtime, donc. Quelles sont les œuvres qui vont être jouées, si on peut en parler très rapidement, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment le jazz? Alors, c'est une période bien particulière,
voilà,
du jazz. Hein.
Il y a le merveilleux Adagio de Barber que tout le monde connaît, qui, au fait, est le mouvement lent de son quatuor, et qui va en faire effectivement l'extraire pour en faire, sans changer de note d'ailleurs, mais il y adjoint la contrebasse, pour en faire ce sublime adagio qui est dédié aux victimes de toutes les guerres. Donc c'est une œuvre que je mets souvent d'ailleurs en relation avec la symphonie de Shostakovich, qui est dédiée aux victimes du fascisme et du nazisme. Donc il y a une sorte de religiosité, il y a une sorte d'intériorité extraordinaire dans cet adagio. Et puis Herbert et Foote sont des compositeurs de la fin du romantisme, qui débordent sur le XXe siècle, qui restent très romantiques dans leur manière de composer, un peu comme Gad et Nielsen, qui étaient ces compositeurs danois très influencés par Brahms. Donc ils s'inscrivent dans un discours très romantique. Donc on n'a pas du tout l'impression d'être aux États-Unis, et c'est pas l'esthétique de Copland ou d'autres. On est quand même dans un langage un peu, je vais pas dire archaïque, mais enfin en tout cas très marqué par le romantisme. Et voilà, Joplin va apporter sa touche particulière qu'est le ragtime, avec ses rythmes syncopés, avec cette rythmique un peu particulière propre à cette musique.
Alors il y a un autre concert dont vous n'avez pas parlé, mais je veux qu'on en parle, c'est l'art de la danse avec le VM Ballet.
Bien, moi, j'ai été séduit par le VM Ballet. J'ai eu l'occasion de voir un spectacle du VM Ballet il y a quelques années. Ils sont à Toulouse. Ils sont un peu dans la périphérie. Ils font un travail extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup des danseurs qui sortent du VM Ballet font de belles carrières. Je crois qu'il y a même, il y en avait un qui avait été récompensé dernièrement. Et en tout cas, j'ai été séduit par le travail. Moi, j'ai moi-même une fille danseuse qui a 30 ans maintenant et qui arrête sa carrière de danse parce que ça, 30 ans malheureusement.
Et oui, on est une ancienne de la danse.
Effectivement. Et j'ai toujours été passionné par la manière d'exprimer ces émotions et par le geste. Et je trouve qu'avec le VM Ballet, il y a à la fois une technique totalement subjugante, une vraie beauté, une vraie intelligence et un rapport avec la musique que j'aime beaucoup. Donc on avait fait à la Halle au Grain un spectacle autour des 4 saisons de Vivaldi avec une chorégraphie du chorégraphe justement.
Mathieu Madsen.
De Mathieu Madsen qui avait fait quelque chose de formidable. On avait fait aussi des extraits de musique de Bach. Donc on a souhaité inviter le VM Ballet comme soliste, on va dire, de la soirée.
Oui, Robert.
Juste pour dire qu'effectivement, cette école de danse a produit un jeune que j'avais vu à 3 ou 4 reprises, qui a passé une audition fulgurante au New York City Ballet. Et il a été embauché.
Ah oui, ça ne m'étonne pas.
Vous avez raison de dire qu'ils produisent effectivement, voilà. En tout cas qui forment des danseurs qui font de grandes carrières après. Alors vous avez parlé de Vivaldi à l'instant. Vivaldi, c'est un des compositeurs que vous aimez beaucoup jouer aussi à l'orchestre de chambre.
Oui, ça fait partie bien sûr des incontournables. Ça fait partie des compositeurs qu'on pense connaître mais qu'on ne connaît pas finalement sur bien des aspects.
Qu'on redécouvre, voilà. Alors j'ai un extrait de Vivaldi joué par l'orchestre de chambre de Toulouse. Il s'agit du concerto opus 3 numéro 9, Estro Harmonico, qu'on va écouter tout de suite. Un extrait du concerto opus 3 numéro 9, Estro Harmonico d'Antonio Vivaldi, interprété par l'orchestre de chambre de Toulouse. Maintenant, je vais passer la parole à Robert Pénavert pour changer complètement de sujet, puisque nous allons parler d'opéra, l'art qui lui est le plus cher, je crois.
Absolument.
Mais alors l'opéra,
je revendique.
L'opéra, pas la télévision, mais presque, l'opéra au cinéma.
Ah non, c'est pas quand même la télévision. Non, Eric, ça, je peux pas vous laisser dire ça. C'est un peu différent, alors évidemment, je serai toujours un inconditionnel de l'opéra dans une salle d'opéra. En direct, bien sûr, mais il y a une autre proposition aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne depuis longtemps, donc c'est la proposition qui est faite au travers de certains circuits de cinéma par le Métropolitain, l'Opéra de Paris, différents théâtres italiens. Bien. Donc, en l'occurrence, la 100e retransmission d'un opéra depuis le Metropolitan Opera de New York a eu lieu samedi dernier. C'était La Norma, chef-d'œuvre bellinien qu'on n'a pas besoin de présenter, j'imagine. Alors, quoi vous dire? Tout simplement qu'il y avait un duo féminin absolument fabuleux. L'américano-canadienne Sandra Radanowski dans le rôle titre, dont certaines notes m'ont fait immanquablement penser à Montserrat Caballé. Et vous qui connaissez mon admiration pour cette cantatrice catalane, vous imaginez à quel point le plaisir que j'ai ressenti. Et ensuite, à côté d'elle, il y avait une autre américaine, Josie Donato, dans le rôle d'Adalgise. Et vraiment, c'était aussi quelque chose de... Malheureusement, reconnaissons que ils étaient un peu mal entourés parce que le ténor maltais, Joseph Calleja, eh bien, était en méforme peut-être, mais il a eu un peu de difficulté pour terminer l'air du premier acte. Pour pas dire vraiment en difficulté. Et Matthew Rose, bon, dans le rôle de Rovez, on ne révolutionne pas son interprétation. Voilà. Donc, mais malgré tout, pour le duo féminin, qui, reconnaissons-le, est le duo majeur de cet opéra, ça valait vraiment, vraiment la peine d'aller voir cette retransmission. Et donc, demain, samedi soir, il y a une retransmission de La Flûte Enchantée, depuis le Métropolitain, dans une mise en scène absolument délirante, qui est un peu faite pour les enfants, à vrai dire. Et ça, c'est extraordinaire, avec des animaux articulés. Enfin, une mise en scène vraiment fabuleuse, avec une distribution comme le Métropolitain sait faire. Hein. Alors, c'est dirigé par James Levine. Je pense qu'il doit diriger sans partition, depuis le temps qu'il dirige cette œuvre. Et il y a... alors, moi, je vais personnellement découvrir une cantatrice dans le rôle de Pamina, qui est une Sud-Africaine, qui s'appelle Golda Schulz, que je ne connais pas, mais on va découvrir. Également, une autre Américaine qui passe pour être la plus grande reine de la nuit aujourd'hui, qui s'appelle Catherine Lewick. Je ne connais pas non plus. Par contre, la Suède à distribution est beaucoup plus connue, et de tous les Toulousains, puisque Tamino, ça sera Charles Castronovo, qu'on a entendu ici.
Et qu'on va entendre dans quelques mois.
Qu'on va réentendre dans Don José, et qu'on a entendu dans un merveilleux Desgrieux aux côtés de Nathalie Dessay. Et le Papageno est un Autrichien qu'on a vu dans ce rôle-là, aux têtes du Capitole, c'est Marcus Verba, et qui aujourd'hui fait une carrière absolument somptueuse. Enfin, tous ces gens-là, on les a entendus au Capitole, et tout de même. Et le Zarastro, évidemment, c'est la grande basse à René Pape, une basse allemande. Donc je pense que là, ça va faire un spectacle éblouissant. Et je le dis encore, n'hésitez pas à mener vos enfants, parce que c'est vraiment fait pour eux. Cette production est faite pour eux.
Donc c'est au Gaumont, la Belge, à quelle heure samedi?
La Belge et Wilson. Hein,
la Belge et Wilson, c'est ce samedi, à quelle heure?
18h55.
Aux deux endroits.
Aux deux
évidemment,
endroits.
Puisque c'est en direct.
Voilà.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Dans l'agenda de la semaine, il y a également ce samedi 14, toujours, un concert des Sacboutiers à Sainte-Gabelle, en l'église Sainte-Marie à 17h. Le programme est intitulé « Danza Alta » et il est interprété par Jean-Pierre Canillac au Cornabouquin, Daniel Lassalle à la Sacboute et Yasuko Bouvard au Grand Orgue. Serge Ozy, vous qui connaissez très bien les Sacboutiers, c'est le moins qu'on puisse dire, pouvez-vous nous présenter ce concert gratuit, je le précise, son programme et ses musiciens?
Oui, donc les trois musiciens sont connus, sont les trois piliers de l'ensemble, les Sacboutiers, qui, je le signale, a fêté ses 40 ans de fondation l'année dernière. Donc c'est un ensemble qui a une certaine expérience. Et donc, ils ont prévu un programme pour célébrer un anniversaire de l'orgue, du grand orgue de Sainte-Gabelle, donc de l'église Sainte-Marie. Et c'est un programme autour du siècle d'or espagnol, avec des musiques donc des 16e et 17e siècles. Et à cette époque-là, donc, c'était l'ascension et puis la décadence du pouvoir espagnol, et puis les deux grands mouvements de la Renaissance et du Baroque. Donc c'est un magnifique patrimoine musical espagnol que l'on entendra, qui est extrait de recueils qu'on appelle les cancioneros, qui sont des sources inépuisables de pièces comme les villancicos, les romances, tientos, etc. Donc c'est vraiment un programme très coloré, qui aura lieu donc, et puis c'est une chance de pouvoir disposer du grand orgue de cette église qui est un instrument magnifique.
Magnifique, oui, l'orgue de l'église de
Sainte-Gabelle. Magnifique, donc il y aura des œuvres de Correa de Araújo, Pablo Bruna, Cabezón, Ortiz, Cabanillas, enfin les grands compositeurs de cet âge d'or.
Yasuko Bouvard à l'orgue, Daniel Lassalle à la Sacboute et Jean-Pierre Canillac au cornet à bouquin. Et là, je crois que vous avez une petite anecdote à nous raconter. Et elle concerne quelqu'un dont nous avons parlé un peu plus tôt dans cette émission, Maxime Emelianichev. Alors racontez-nous cette petite anecdote.
Ah oui, c'est très particulier. Donc j'ai eu la chance de l'interviewer, comme je vous disais précédemment. Et au cours de l'interview, il m'a dit qu'il jouait non seulement du clavecin et du piano, mais également du cornet à bouquin. Enfin, c'est extrêmement rare.
C'est même surprenant.
Ce doit être le seul chef d'orchestre à jouer du cornet à bouquin.
C'est probable.
Alors quand je lui ai dit qu'ici, il y avait quand même les Sacboutiers, que j'étais lié à cet ensemble les Sacboutiers, il a été enchanté. Il a souhaité rencontrer quelqu'un de l'ensemble les Sacboutiers. Et donc Jean-Pierre Canillac est venu
avec son cornet à bouquin
à la Hallogramme au cours d'une répétition, à la fin de la répétition. composition. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté abondamment, et puis ils ont improvisé une sorte de... Ils ont fait le bœuf au cornet à bouquin, et tous les deux ont joué en improvisant complètement sur le thème bien connu de la toccata de l'Orfeo de Monteverdi. Et donc, voilà, alors...
Et vous avez la bonne idée d'enregistrer.
J'ai eu la bonne idée de filmer, d'enregistrer avec un téléphone portable, donc...
Oui, alors on a ce document, qui est très court, mais je voudrais quand même qu'on l'écoute, parce que c'est...
Ah oui, c'est très particulier, c'est... et c'était tout à fait inattendu, évidemment.
On l'écoute, ce petit document. Voilà, alors c'était court, mais c'était bon. C'est vraiment un document qui peut-être un jour aura une grande valeur. Pour la petite histoire, dans la grande histoire de la musique, oui. Le jeune Maxime Emelianichev, on ne sait pas, dans 30 ans, ce sera peut-être un des plus grands chefs du monde. Et puis il y en aura un document collector.
Oui, oui, et puis je voudrais vous signaler qu'à la fin de ce petit duo improvisé, Maxime Emelianichev a dit à Jean-Pierre Cagnac, si vous avez besoin de moi pour me joindre à vous, je serai très heureux de jouer avec vous.
Toujours prêt à rendre service, semble-t-il.
Ah, oui, oui, oui.
Merci beaucoup Serge, et merci beaucoup à tous les quatre pour votre venue et votre participation à ce numéro. À bientôt Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzier, Robert Pénavert, les chroniqueurs réguliers de cette émission, Gilles Colgard, vous serez bien sûr toujours le bienvenu à Mélomanie. Je vais vous souhaiter de très bons et très beaux concerts avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse la semaine prochaine. Je rappelle donc, c'est les lundis 16 et mardi 17 octobre à Saint-Pierre-du-Cuisine et les mercredis 18 et jeudi 19 à l'Escale de Tournefeuille. Des concerts qui commencent tous à 20h30 avec un programme d'œuvres de Fauré, Kempf et Wagner. Pour connaître le détail de toute la saison de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, vous pouvez consulter son site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Les Sacboutiers sont en concert ce samedi 14 à 17h à l'église Sainte-Marie de Sainte-Gabelle avec leur programme Danza Alta. C'est gratuit, mais il est préférable de réserver vos places sur leur site internet www.les-sacboutiers.com. Fin du Festival de Toulouse des Orques ce week-end avec le grand récital de Wayne Marshall samedi à 20h30 à la Basilique Saint-Sernin. Puis il y a encore des événements et des concerts tout le dimanche avant la clôture du festival. La Nuit de l'Orgue a lieu à la Basilique Saint-Sernin à partir de 21h le dimanche. Pour en savoir plus, il y a le site www.toulouse-les-orgues.org. Je signale également que le chœur Les Éléments donne, lui, son programme Capella Nostra le mercredi 18 octobre à 20h30 à la collégiale d'Ibos près de Tarbes. Là aussi, vous pouvez consulter leur site internet pour avoir plus de détails, www.les-éléments.fr. Et puis à la Lograin, vendredi 20 octobre à 20h, deuxième concert de la saison des grands interprètes avec l'orchestre Il Giardino Armonico dirigé par Giovanni Antonini avec la violoniste Isabelle Faust. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.